Il est 18h15 à Niamey, madame, monsieur. Bonsoir et bienvenue à cette émission, le forum Dissidio Kalangou, qui sont diffusés en direct par 41 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Dissidio Kalangou, notre site internet www.dissidiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum Dissidio Kalangou a pour thème « Quelle voie de recours pour les populations contre les abus des forces de sécurité au Niger ?» L'article 32 de la Constitution de la 7e République du Niger stipule que l'État reconnaît et garantit la liberté d'aller et venir, les libertés d'association, de réunion, de cortège et de manifestation dans les conditions définies par la loi. La Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789 proclame par ailleurs que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne trouvent pas l'ordre public par la loi. Cette notion d'ordre public est essentielle car c'est elle qui vient limiter la liberté de manifester. L'article 14, quant à lui, précise que nul ne sera soumis à la torture, à l'esclavage, ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains et dégradants. Avec nos invités, nous allons faire un état de lieu sur les voies de recours dont disposent les populations pour porter plainte contre les éventuels abus commis par les forces de sécurité au Niger. Nous avons donc le plaisir de recevoir Amadou Alichina Gourgueni, secrétaire général de la Commission nationale des droits humains. Amadou Alichina Gourgueni, bonsoir.
Bonsoir.
Commissaire Abdelaziz Lawali de la Direction de la Sécurité publique. Commissaire Abdelaziz Lawali, bonsoir.
Bonsoir.
Et Kani Abdoulaye, coordonnateur du collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie, COD. Kani Abdoulaye, bonsoir.
Bonsoir.
Au microphone, Mokhtar Hamadou. Commissaire Abdelaziz Lawali, on va commencer avec vous. Dans quel contexte et à quelles conditions interviennent les forces de l'ordre?
Les forces de défense et de sécurité de manière générale et les forces de sécurité intérieure qui s'entendent en fait la police nationale, la gendarmerie nationale et la garde nationale du Niger interviennent chaque fois qu'il y a de besoin quand l'ordre public est troublé ou bien quand il est, disons, menacé.
Commissaire Abdelaziz Lawali, beaucoup de Nigériens évoquent des cas de violence policière et avec eux les accusations envers la politique de maintien de l'ordre en vigueur au Niger. Pourtant, le droit encadre toute intervention des forces de l'ordre, notamment en cas de manifestation. Alors, qu'est dit ce droit?
Donc, par rapport en fait à cette question, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que au niveau de toute la hiérarchie des forces de défense et de sécurité, par rapport à l'usage de la force, en fait, l'emploi de la force, il est strictement encadré non seulement par les textes de la République et aussi en fait les textes qui sont spécifiques à ces différentes forces de défense et de sécurité. Et maintenant, pour qu'il y ait usage en fait de la force, comme j'ai allé dire, il faut qu'il y ait en fait un trouble à l'ordre public qui est établi, qui est manifeste. Maintenant, pour pouvoir utiliser...
Alors, comment mesurer ce trouble à l'ordre public là? Comment l'apprécier?
Oui, c'est ça que je suis en train d'expliquer en fait. C'est-à-dire, pour pouvoir faire usage de la force, à partir du moment où l'ordre public il est troublé, il y a un certain nombre de conditions qu'il faudrait respecter. C'est-à-dire, par exemple, pour une force, à partir du moment où elle est victime de violence qui est grave et généralisée, elle peut faire usage de la force. Maintenant, par exemple, s'ils sont sur un poste et que le seul moyen qu'il leur est offert pour pouvoir assurer la défense de ce poste-là dont ils ont la garde, c'est de faire usage de la force. En ce moment, la force, les textes leur permettent de faire usage de la force. Mais pour faire usage de la force, c'est ça, il y a un certain nombre de filtres par lesquels il faut passer. Donc d'abord, il faut respecter le principe de légalité. Il faut que ça soit prévu par les textes en vigueur dans la République du Niger. Maintenant aussi, il faut qu'il y ait la nécessité. Est-ce qu'il y a la nécessité d'intervenir ou pas? Maintenant aussi la proportionnalité, c'est-à-dire l'usage de la force, il doit être proportionnel. Maintenant, au-delà de ces trois principes, il y a un quatrième principe qui est de plus en plus en vogue, surtout à l'échelle internationale, c'est celui d'humanisme. Parce qu'on se dit que les manifestants, là, ce ne sont même pas des adversaires, ce sont des frères et des sœurs qui, pour un laps de temps, se sont sortis en fait du champ de la légalité et que, pour nous, le devoir, si vous voulez, c'est de faire rétablir l'ordre qui a été troublé par ses frères, par ses citoyens en amont.
Commissaire Abdelaziz, comment apprécier l'ordre proportionnel, la proportionnalité?
Maintenant, proportionnalité, surtout, elle ne veut pas dire égalité. Elle ne veut pas dire égalité.
Comment le mesurer sur le terrain?
Mesurer ça sur le terrain, par exemple, voilà un certain nombre de manifestants. C'est-à-dire la manifestation, elle peut être surtout violente dans les cas d'une manifestation qui est déjà interdite. Si elle est violente, maintenant, c'est à la police, puisque...
Quand des manifestants portent des coupes-coupes, des gourdins...
Ça, c'est une manifestation, en fait, qui est armée. Maintenant, c'est-à-dire pour pouvoir apprécier, on a un certain nombre, c'est-à-dire de leviers qui sont placés en amont et qui nous permettent de mesurer, en fait, la gravité de la situation sur le terrain. Parce que nous avons des agents des renseignements qui sont sur le terrain, qui évaluent
avec les manifestants.
Qui évaluent la situation, en fait, sur place. Maintenant, c'est en fonction de cela, du retour qui nous est fait, maintenant, nous, on évalue, en fait, la force de riposte. Donc, toujours est-il qu'on s'assure pour que cette force-là ne soit pas démesurée. Il faut qu'elle soit proportionnelle, en fait, à la situation qui prévaut sur le terrain. Maintenant, vous avez dit que dans les cadres, par exemple, des mesures qui sont prises, il y a un certain nombre d'accusations qui sont portées à l'endroit des forces de défense et de sécurité. Je tiens ici à rappeler haut et fort et surtout à rassurer qu'au niveau de toutes les hiérarchies des forces de défense et de sécurité, puisque aujourd'hui, pour la ville de Niamey, puisque c'est là où il y a le couvre-feu, il faut savoir qu'il y a un conseil régional de sécurité donc qui est placé sous la coordination en fait du DPVN, qui est le directeur de la police de la ville de Niamey, et maintenant qui est présidé par le gouverneur. Donc des instructions sont données à toutes les forces pour que d'abord, c'est-à-dire en premier lieu avant d'interpeller, si vous avez remarqué, les premières semaines du couvre-feu ont surtout été axées en fait sur la sensibilisation. Les forces sortaient depuis 17h. Je ne sais pas si vous avez vu un élément qui a passé sur Africa, voilà, qui démontrer en fait cette approche qui consiste d'abord à sensibiliser les gens, à leur faire comprendre en fait les enjeux, c'est-à-dire du contexte sécuritaire actuel. Et
mais est-ce que ça, ce n'est pas du ressort de la délégation de la ville de Niamey?
Non, en fait, c'est une initiative même qui vient du CRS, du Conseil régional de sécurité. Parce que même dans les missions des forces de défense et de sécurité, il faut d'abord sensibiliser. Même dans le cadre des manifestations, d'abord, il y a la négociation qui est faite en amont, avant même de faire usage de la
sur
force.
Sur le terrain.
Maintenant, c'est quand on voit, en fait, la situation, elle a atteint un niveau où, par exemple, les violences sont devenues graves et généralisées, c'est en ce moment on fait usage directement de la force, sans pour autant passer par cette phase-là de négociation. Mais je puis vous assurer qu'en fait, en amont, ce qui importe, c'est pour les forces de défense et de sécurité, ce n'est pas pour faire les interpellations, interpeller les personnes en fait au moment des couvre-feux, c'est surtout les sensibiliser, leur faire comprendre, c'est-à-dire la gravité de la situation. Puisque comme l'a allait souligner en fait mon grand frère avant le début de l'émission, en fait aujourd'hui ce qui nous manque c'est la discipline. Donc il faut faire prendre aux gens la conscience de la gravité de la situation. Donc les forces de défense et de sécurité de manière générale, même sur les terrains, en fait, il y a ce qu'on appelle la hiérarchie intermédiaire qui accompagne les agents sur le terrain. Et elle a un rôle, en fait, de contrôle. Puisque même au sein des forces de défense et de sécurité, comme vous le savez, en fait, il y a des mécanismes de contrôle. Ces mécanismes, il y a des mécanismes, en fait, de contrôle interne qui ont deux volets. D'abord, le contrôle hiérarchique et maintenant le contrôle par les pairs. C'est-à-dire, il y a un cadre intermédiaire qui est là pour s'assurer que tout ce qui est fait sur le terrain, c'est fait selon les règles de l'art. Et maintenant aussi, entre eux, entre collègues, ils ont le devoir de se contrôler. C'est-à-dire tout celui qui va poser un acte qui sort du champ de la légalité, l'autre, il a le devoir de le rappeler à Londres. C'est une sorte de, comme en système américain, qu'on dit les checks and balances. C'est-à-dire c'est le poids et de contrepoids.
Kani Abdoulaye Ducode, vous venez là d'écouter commissaire Abdelaziz Lawali. Quelle interrogation suscite son intervention?
Merci beaucoup de cette initiative. Surtout sur le sujet, le recours. J'ai bien écouté effectivement le commissaire
Abdelaziz
Lawali qui a bien dit effectivement dans les faits sur les papiers ce que dit la loi. Souvent, nous le disons, deux fois, les responsabilités sont partagées. Et il l'a dit, souvent quand nous appelons à des manifestations, nous devons d'abord nous-mêmes nous assurer que c'est des manifestations qui sont pacifiques. Parce que nous savons qu'effectivement, nous ne devons pas aller aussi à l'encontre effectivement des lois de la République. Parce que dans ton chapeau, tu as toujours rappelé que la loi encadre. Et souvent c'est effectivement cet encadrement de la loi que beaucoup d'entre nous, ou disons, ce que nous appelons souvent, ceux qui viennent effectivement agrandir ou faire grossir la masse lors de nos manifestations. Souvent, c'est eux qui méconnaissent la loi. Ce qui fait qu'effectivement, et ça arrive toujours, il l'a dit, c'est quand les manifestations sont interdites. Et de mon point de vue, lorsqu'une manifestation est interdite, de mon point de vue, moi je suis légaliste et je l'ai toujours dit, lorsqu'une manifestation est interdite, je crois que la meilleure façon pour les organisateurs, ou la meilleure façon pour nous, c'est peut-être de nous poster par où devait commencer la manifestation, le point de départ ou le point d'arrivée, pour dire que non, ce n'est pas que, parce que souvent on avance que non, les gens ont peur ou non, il faut s'affronter. Non, il l'a dit, nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. C'est juste pour le temps, le rôle de force et de défense, effectivement, comme il l'a dit, c'est effectivement de faire rétablir l'ordre. Mais souvent, c'est que tu as posé une question qui me paraît pertinente, c'était comment mesurer effectivement
la proportionnalité,
un. Deux, aussi, le trouble
à l'ordre public.
À l'ordre public. Le trouble à l'ordre public. Parce que souvent, nous sommes là, on voit que des forces intérieures nous sargent. Et on se demande des fois, effectivement, on doit passer, il y a des étapes qu'il faut passer, donc par exemple la négociation. Et des fois, on ne négocie même pas, dès qu'on vient, on vous dit « dégagez ». Et souvent, ça frustre. On vous dit « dégagez ».
C'est menaçant.
Oh oui, c'est menaçant, déguerpir. Or, de mon point de vue, nous sommes tous des responsables. Lorsque nous dialoguons, lorsque nous arrivons à dialoguer, nous allons toujours nous comprendre. Et souvent, ce qui fait qu'effectivement, il y a toujours ce trouble à l'ordre public, c'est effectivement lorsqu'il n'y a pas la négociation. Et nous avons remarqué qu'effectivement, des fois, il y a certaines forces intérieures, quand elles sont présentes, c'est toujours effectivement cette violence effectivement qui s'abat sur les manifestants, souvent sans même négocier.
Alors Kani Abdoulaye, comment le code appréhende les questions liées aux abus commis par les forces de sécurité au Niger?
Comment nous les appréhendons? Je dis bien, il ne faut pas fuir sa responsabilité, parce que souvent les responsabilités, j'ai dit, dans la plupart des cas, nos responsabilités sont partagées. C'est quoi? Le code appelle à une manifestation. La manifestation est interdite. Oui, le Niger est parti à plusieurs instruments qui reconnaissent le droit de manifester. Oui, la Constitution reconnaît le droit de manifestation, mais c'est encadré par une loi. Lorsque on dit que cette manifestation elle est interdite, mon devoir, moi, au niveau du code, c'est d'aller devant le juge de référé pour attaquer cette décision d'interdiction. Je ne veux pas dire que non, parce que simplement je suis défenseur des droits humains et que je reconnais que le Niger est parti à la Déclaration universelle des droits de l'homme, ou que le Niger est parti au pacte international relatif aux droits civils et politiques, ou que dans la Constitution de la République du Niger, il est établi que le droit à la manifestation est un droit. Mais lorsque je manifeste, j'empiétine aussi sur les droits des autres, parce que lorsque, par exemple, rien qu'une rue est bloquée pendant un temps, il y a des gens qui devaient emprunter cette voie, et qui n'ont rien, par exemple, à voir avec notre manifestation, qui, par exemple, n'ont rien à voir avec notre manifestation. Donc, c'est pourquoi nous devons aussi, ce n'est pas, de mon point de vue, ce n'est pas une lâcheté d'accepter d'aller devant le juge de référé. Mais je vais devant le juge de référé. Si le juge de référé dit que ma manifestation, elle est, et me donne raison pour faire la manifestation, mais on peut aller faire la manifestation, on peut aller sur le lieu. Et souvent, c'est là où de problèmes arrivent, parce que c'est là où...
Selon vous, Kanyab, là, il faut respecter la loi.
Ah, il faut respecter la loi, parce qu'on n'est pas des bandits.
Malgré l'existence de toutes ces lois et instruments, on remarque le plus souvent quelques manquements, des insuffisances en matière du maintien de l'ordre. Qu'est-ce qui ne marche pas?
Oui, ce qui ne marche pas, de mon point de vue, il a dit un mot, c'est la négociation. C'est-à-dire, les gens, souvent, ne discutent pas. Parce que, de mon point de vue, si les gens discutent, ils arriveront toujours à un compromis. Parce que souvent, ce n'est pas de gaieté de cœur que souvent on appelle à une manifestation. Parce que vous savez, lorsque j'appelle à une manifestation et qu'il y a une violence sur les manifestants, je ne peux pas prédire ce qui peut y arriver. Or, ça sera aussi sur ma conscience, ce serait ma responsabilité. C'est pourquoi, de mon point de vue, il faut toujours qu'il y ait cette discussion en amont.
Le respect des lois.
Le respect des lois et cette discussion en amont. Je pense que si nous discutons en amont, on arrivera toujours à avoir de compromis. Parce que pour nous, quand vous manifestez, ce n'est pas pour quand même faire violer la loi, non. Dans la plupart des cas, c'est pour que faire ce reste à la loi que nous manifestons. Nous manifestons parce que un journaliste ou une liberté quelconque a été violée. C'est pour que cette liberté soit respectée. C'est pour que ce droit soit respecté. Donc, de mon point de vue, nous ne manifestons pas pour causer d'autres injustices. Non, c'est pour faire effectivement, comme on l'a dit, pour faire en sorte qu'effectivement force puisse rester aux lois.
Amadou Ali Chinagourgueni, l'article 15 de la Constitution de la 7e République précise que nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. La loi détermine l'ordre manifestement illégal. Comment la CNDH, la Commission nationale des droits humains, aborde-t-elle les questions liées aux abus commis par les forces de sécurité au Niger?
Permettez-moi de réagir un peu avant que je ne réponde à la question que vous m'avez posée. Et mes prédécesseurs ont dit des choses extrêmement importantes et pertinentes. Mais avant, vous avez rappelé le contexte tout à l'heure quand vous avez parlé. Donc il faut qu'on fasse d'abord la distinction entre le contexte normal, hein, et c'est de ça qu'il s'agit, vous, quand vous avez parlé dans vos propos préliminaires là, et du contexte d'exception lorsqu'il s'agit d'une question d'état d'urgence. Parce que quand il s'agit d'une question d'état d'urgence, eh bien, la légalité est mise entre parenthèses. Sauf que même si la légalité est mise entre parenthèses, les droits de l'homme doivent être respectés à tout moment et en toutes circonstances. Donc tout ce que vous avez brossé là,
c'est dans le cadre normal.
C'est dans le cadre de l'expression normale des libertés publiques. On est d'accord, c'est ce que la Constitution a dit. Et c'est elle-même cette Constitution qui a encore rappelé aussi les questions d'état d'exception. Hein? Lorsqu'il s'agit d'état d'urgence, d'état de siège, etc., qui sont d'autres des notions voisines dont ce n'est pas le lieu ici d'en parler. Ce que j'ai retenu d'extrêmement important, que mon petit frère Aziz et le petit frère Kani ont relevé, qui est pertinent, c'est quand ils ont parlé de négociation. Effectivement, la loi 2004-45 portant régime des manifestations sur la voie publique, le principe c'est la déclaration préalable. Parce que dès que vous entendez, on parle d'échauffourée entre forces de défense et de sécurité, c'est qu'il faut voir la définition là-bas de ce que la loi a donné. Parce que la loi parle de l'attroupement, c'est toute manifestation, soit non déclarée, ou alors déclarée, mais interdite. C'est l'un des deux. Dès que vous vous retrouvez dans un de ces cas, parce qu'à mon avis, c'est ça la base qu'il faut d'abord étaler pour que nous puissions discuter. Eh bien, dès que vous entendez, on parle de maintien de l'ordre, eux, ils sortent leurs éléments, eh bien, c'est soit la manifestation, elle a été déclarée, mais elle a été interdite. Et c'est de ça que Abdoulaye Kani a bien expliqué, il faut aller saisir les autorités judiciaires par la voie du référé. C'est ça le bon légaliste. Ou alors, la manifestation n'a pas du tout été déclarée. Eh bien, dans ce cas, les manifestants vont se retrouver en face avec les forces de maintien de l'ordre. Et je profite de ce micro pour féliciter, parce que vous avez parlé d'avancées tout à l'heure. Mmh. Effectivement, il y a eu des avancées. Parce que aujourd'hui, la manière dont, quoi qu'on dise, il est vrai qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais je vous assure qu'il y a eu des améliorations. Dans le cadre du respect des droits de l'homme en matière de maintien de l'ordre, comparativement aux décennies antérieures, vous ne pouvez pas faire, comme on dit, excusez-moi l'expression, il n'y a pas match. Pourquoi? Je me rappelle qu'en 2015, et c'est le lieu de féliciter la police nationale, la garde nationale, et même la gendarmerie, puisqu'elle est en train de venir, elle aussi, à travers le travail exceptionnel que l'Institut danois des droits de l'homme est en train de faire, l'IDDH, qui est notre consoeur, qui est notre... C'est une institution nationale des droits de l'homme, comme la CNDH. Eh bien, elle a institué ce partenariat avec la garde nationale, avec la police nationale, et des modules, parce que moi, j'ai participé...
Et même DECAF, DECAF
oui,
intervient
oui, dans DECAF, tout ça. Bien avant DECAF, donc, y compris DECAF, et vous voyez, qui accompagne ces institutions pour qu'il y ait des formations initiales, mais aussi continues. hein, des forces de défense et de sécurité, pour que ces forces de défense et de sécurité ou les forces de sécurité intérieure puissent respecter les droits de l'homme. J'ai vu des modules qu'on leur enseigne à l'école de police. J'ai vu ça à travers la fondation Konrad Adenauer et IDDH Extra ou DECAF, police et droits de l'homme, police et maintien de l'ordre, police et élections, extra, extra, qui sont des modules qui permettent aux porteurs de tenue de savoir comment se comporter en matière de maintien de l'ordre, de respecter les droits de l'homme. La question de l'humanité dont il a fait recours appelle tout à l'heure. Sauf que vous savez, il y a ce que le terrain aussi prévoit. On a beau former les gens, vous allez avoir, excusez-moi l'expression, sur 10, vous allez avoir une brebis galeuse. C'est normal, c'est comme ça. Eh bien, les négociations, là, lorsque une manifestation a été interdite, ou même, mais ça se discute avant même sur le terrain. Comme l'a dit Aziz, ça se discute, oui, mais ça peut se discuter avant le terrain même, entre les autorités administratives investies du pouvoir de police.
Alors, est-ce que cela se fait sur le terrain?
Normalement, même sur le terrain, ça se fait. Ça se fait et sur le terrain et en amont, avant d'arriver à là. Pourquoi? Parce que dans une déclaration préalable, il est dit, voilà, l'heure et le lieu du rassemblement. Le circuit qui va être emprunté. Et l'heure et le lieu de la tenue du meeting ou de la manifestation et le moment de la dispersion. Si aujourd'hui, les manifestants ont projeté de suivre vers le Grand Marché ou le marché Katako ou je ne sais pas, l'hôpital de Niamey à cause des malades ou vers le cimetière, etc. Mais les autorités peuvent les appeler, bon, venez, assoyons-nous, on va s'entendre, tel circuit-là, il n'est pas bon. Évitez le Grand Marché parce que ça risque de déborder et puis ça va causer des machins. Ils vont s'entendre et ça se négocie.
Ça, c'est dans le cadre d'une manifestation autorisée.
Qui va être autorisée. Voilà. Et c'est nous, c'est notre position
dans
à la commission.
Et dans le cas contraire?
Et dans le cas contraire, ben, l'autorité, si elle estime que et c'est ça justement qui est déplorable et que je relève ici. Parce que dans l'ensemble de nos rapports sur l'état des droits humains, depuis 2013 à aujourd'hui, chaque fois la Commission nationale des droits humains a rappelé le principe de la liberté de manifestation sur la voie publique. Parce que je le dis chaque fois, la liberté de manifestation sur la voie publique rend compte de la vitalité d'une société véritablement démocratique.
Alishina Kourgueni, comment saisir la CNDH en cas d'abus d'un membre du personnel de sécurité?
Oui, par exemple, il y a beaucoup d'inconduites, de mauvais comportements. On en a recensé. Par exemple, dans le feu de l'action, parce que les forces de défense et de sécurité ont un terrain à défendre. C'est ce terrain-là qu'on leur a donné, ils doivent le défendre. Mais sauf que dans le feu de l'action, vous allez retrouver des éléments qui vont s'introduire jusque dans les domiciles des gens. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est une violation de domicile et qui est prévue et punie par le code pénal. Ou certains comportements, du genre, on met lacrymogène dans les concessions des gens, des tirs tendus, comme on en a vu malheureusement, et dont une commission d'enquête avait été mise en place lorsque le feu bagalait l'étudiant avait été tué, tout ça. Donc, ces genres de comportements sont déplorables. Alors, comment nous, on envisage cette question? Mais il faut porter plainte.
Alors, comment aider les populations
la
à porter plainte?
La Commission nationale des droits humains, à travers les articles 19, 20 et 21, qui lui donnent mandat de faire la promotion et la protection des droits de l'homme, on dit que dans un de ces articles que je viens de vous citer, la Commission nationale, elle peut s'auto-saisir ou elle peut être saisie. La plainte, c'est simple. Vous vous présentez à la commission ou à une de ses antennes régionales ou à défaut d'une antenne régionale, les points focaux. Parce que nous avons des antennes, en plus du siège qui est là à Niamey, qui est sur la route de l'aéroport, à côté de la cour de cassation, nous avons une antenne à Tillabéri que les gens peuvent saisir. Nous avons une antenne à Gadès, nous avons une antenne à Difa. Et pour le reste, nous avons des points focaux.
Est-ce que les populations, les Nigériens, savent?
Ils savent. Aujourd'hui, les auditeurs qui m'écoutent, je vous dirais que nous en avons d'ailleurs formé beaucoup. Et moi, je suis appelé, aujourd'hui, les auditeurs de Zender vous diront que, en partie, je le dis haut et fort, c'est grâce au conseil de la Commission nationale des droits humains qu'ils ont saisi la justice il y a 2 ans. Et ils ont eu gain de cause. On a fait un atelier où on a réuni des magistrats de la région, de la ville de Zinder, avec des, les syndicats, les acteurs de la société civile, et nous les avons sensibilisés dans le sens d'exercer le voie de recours. Alors la plainte, comment elle se fait? C'est simple. Si la commission ne s'est pas auto-saisie, eh bien vous pouvez la saisir même verbalement. Même verbalement, si vous ne savez pas lire et écrire, saisissez la commission verbalement en portant plainte avec objet plainte contre un tel pour tel fait, et vous adressez la plainte à monsieur le président de la Commission nationale des droits de l'homme. Si vous ne savez pas lire et écrire, il y aura le staff de la Commission qui est là à
des
votre disposition. Oui, des interprètes qui vont vous aller dire ça en langue nationale et eux vont transcrire en français et ils vont, la plainte va suivre son cours. Maintenant, ce qui est important à ajouter, c'est que la Commission, attention, elle n'est pas une juridiction. Elle ne tranche pas les litiges. Et les litiges qui sont portés devant la justice, elle est obligée de s'abstenir de toucher à ces genres de litiges, mais elle a le droit de savoir qu'est-ce qui se passe dans tel dossier. Et parce que régulièrement, on peut poser des questions au ministre de la Justice pour chercher à savoir. Mais lorsque la justice n'est pas saisie, eh bien la plainte va suivre son cours, la commission va mener des investigations, elle va donner des appuis, conseils juridiques ou judiciaires au plaignant, et dans une large mesure, elle peut même aider le plaignant, elle lui prend un avocat, elle l'assiste judiciairement et il va avoir gain de cause devant le tribunal. Voilà.
Commissaire Abdelaziz Lawali, le Centre pour le contrôle démocratique des forces armées du CAF de Genève, désormais appelé Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité, œuvre à renforcer les capacités institutionnelles au sein des services de sécurité en vue d'améliorer leurs prestations et le contrôle interne de leurs actions en collaboration avec une multitude d'acteurs. Quel est l'impact des interventions du DECAF pour le renforcement des services de la sécurité au Niger?
Ok, merci. Donc déjà, avant de répondre à la question, je tiens à rebondir sur ce qu'a dit le grand frère. Donc par rapport en fait à la CNDH, donc il faut ici ajouter que la CNDH en fait elle est l'une de ces institutions en fait qui détient ce qu'on appelle le contrôle externe. C'est-à-dire par rapport aux mécanismes dont j'ai eu à parler tantôt, il y a des mécanismes internes, il y a aussi des mécanismes de contrôle externe. Donc parmi ces mécanismes, nous avons la CNDH pour les forces de défense et de sécurité. Elle a un droit en fait de visite inopinée. Elle peut venir par exemple au niveau d'une cellule pour vérifier les conditions de la garde à vue. Et elle peut s'auto-saisir, comme il a dit, tout comme elle peut être saisie en fait, par le citoyen qui s'estime lésé en fait, dans son droit. Maintenant, par rapport à la question que vous venez de poser par rapport au DICAF, je dirais que c'est un partenaire aussi des plus importants en fait, qui accompagne la police nationale depuis un certain nombre d'années. Donc avec DICAF, on a fait un certain nombre de formations sur notamment le respect des droits humains et aussi en fait, l'éthique. L'éthique et aussi les règles essentielles en fait, du comportement intègre, puisque c'est surtout ce volet-là qui les intéresse le plus. Et par rapport à ce volet, on a eu à travailler dans la production en fait, des dépliants, donc sur les règles essentielles du comportement intègre, c'est-à-dire qui est à l'usage des policiers. Donc en fait, ça rappelle un peu aux policiers les devoirs qui sont inscrits au niveau du code d'éthique et de déontologie, aussi les règlements de discipline générale en fait de la police nationale. Donc bref, c'est une institution vraiment qui accompagne la police nationale dans son élan de changement. Parce que depuis presque...
Il y a eu des impacts, disons, sur le terrain.
Oui, disons, depuis plus d'une décennie, la police elle est accompagnée par un certain nombre de partenaires, notamment DICAF que vous avez à citer, Hansedel, la GIZ et l'USIP, qui est l'Institut des États-Unis pour la paix. Parce qu'en fait, on a amorcé, c'est-à-dire une démarche qui est celle de la police de proximité, qui consiste à placer les citoyens au centre, en fait, de nos préoccupations. C'est-à-dire, il est à la fois un sujet aussi, un acteur dans les cadres du complexe de sécurité. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, de plus en plus, l'impact, il est manifeste au niveau de la police nationale et aussi les agents de la police nationale. Aujourd'hui, en fait, ils se sont inscrits dans cette démarche-là qui consiste en fait à traiter le citoyen, si vous voulez, non pas comme un problème à résoudre, mais plus comme un client à servir.
Commissaire Abdelaziz Lawali, la présence de policiers en civil est-elle autorisée dans les cortèges et les manifestations?
Oui, en fait, la présence des policiers, comme vous avez à le dire, en fait, que ce soit dans les cortèges, que ce soit dans les manifestations, ce sont des choses qui viennent en amont. Donc, quand elles viennent, en fait, c'est surtout pour renseigner ceux qui sont sur le terrain par rapport, non seulement, comme vous avez à le dire, en fait, au nombre des manifestants qui sont sur le terrain, mais le but, c'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que c'est pour mieux encadrer la manifestation, pour mieux encadrer le cortège.
Des policiers en civil.
Pour que force, comme on dit, reste à reste à la loi. Donc c'est ni plus ni moins que cela.
Kani Abdoulaye, comment éviter ces abus dans le cadre du maintien de l'ordre?
Pour les éviter, c'est très simple. Il suffit que chacun, en ce qui le concerne, respecte ses engagements. Lorsque nous appelons à manifester, c'est des manifestations généralement pacifiques, parce que je ne suis pas assez sûr qu'une organisation de la société civile, un syndicat ou un parti politique assez responsable va appeler à une manifestation violente,
non autorisée.
Violente ou non autorisée, une manifestation violente. La question, c'est aussi, c'est que au niveau de surtout de forces de défense et de sécurité, surtout les forces de défense intérieure, c'est aussi effectivement de se dire que lorsqu'ils viennent, si vous me permettez le terme, les théâtres des manifestations, c'est de se dire qu'effectivement aussi qu'ils sont venus pour qu'effectivement force puisse rester à la loi, non pas pour venir violenter ou participer à des violations des droits de l'homme. En ce que souvent, effectivement, vous avez l'impression comme si ça les intéresse de venir et violenter des manifestants et souvent même s'introduire dans des concessions. Et c'est vrai, ça peut arriver. Par exemple, je ne suis pas assez sûr que, comment on appelle les gaz lacrymogènes qui sont balancés, je ne suis pas assez sûr que c'est exprès qu'on les fait balancer, par exemple, dans des maisons, parce que la maison peut être peut-être dans le, ça c'est le bénéfice du doute que je donne, peut être dans le champ du terrain à défendre. Mais je pense que lorsque chacun en ce qui le concerne se donne comme objectif de faire en sorte que force reste à la loi, je pense qu'il ne peut pas y avoir deux habits. Parce que c'est quoi ? Nous sommes venus, notre travail, notre rôle, c'est effectivement d'encadrer. Vous, votre rôle, vous êtes venus, c'est pour exercer une liberté. C'est pour exercer
un droit.
Un droit, du moins. C'est pour exercer un droit. Si chacun se met dans son rôle, je pense qu'on n'arrivera jamais à des violations. Mais ce qui le fait le plus souvent, c'est quoi ? Lorsqu'il l'a rappelé, c'est la déclaration préalable. Vous écrivez à une autorité administrative ou municipale, vous les écrivez, ils attendent toujours, alors qu'il est dit que dans la déclaration, vous donnez les noms des responsables, leurs contacts. Mais on attend toujours, souvent, on attend...
Et les itinéraires.
L'itinéraire, tout, mais on attend toujours le dernier moment pour...
Interdire.
Pour dire qu'on a interdit. Et souvent, sans même notification. Et même quand c'est notifié, on dit que c'est par avis motivé. Et le plus souvent, le terme qu'on trouve pour trouble à l'ordre public. Et on n'a jamais expliqué ou insuffisance d'éléments pour encadrer. Or, quand c'est pour faire disperser, on a toujours d'éléments pour disperser une manifestation de poids de manière violente. Or, je pense qu'il suffit simplement de responsabiliser les responsables. Dans le temps, on le faisait. On nous appelait à la police. Vous avez décidé de marcher. Voilà votre itinéraire. Nous voulons que l'itinéraire soit changé. Pourquoi ? Souvent, ils ont leurs informations pour lesquelles, et nous le savons, quand nous faisons nos manifestations, qu'il y a des policiers, comment on appelle ça, civils avec nous.
Kani Abdoulaye, quel est l'impact des interventions des ONG et associations pour l'accompagnement de l'État et de la promotion des droits humains au Niger?
En tout cas, aujourd'hui, l'impact est là parce que, d'abord, il y a une décennie de cela, je le disais même dans un documentaire qui a été réalisé par l'Institut danois de droits de l'homme au compte de la police et pour le ministère des Affaires étrangères danois, pour effectivement appeler les Danois à investir pour accompagner la police. Vous n'allez pas vous retrouver face à un colonel, à Blaziz, dans un studio pour parler des droits de l'homme. Je pense que ça, c'est d'abord une volonté politique manifeste au niveau de hautes autorités. C'est aussi une volonté manifeste au niveau de la hiérarchie des forces de défense et de sécurité. Mais aussi, c'est grâce aussi à un travail des organisations de défense, de promotion des droits de l'homme, qui ont compris qu'effectivement, qu'aujourd'hui, la protection, la promotion des droits de l'homme, ce n'est pas seulement une affaire des organisations de la société civile, ce n'est pas seulement aussi une affaire de l'État.
C'est une affaire de tout le monde.
C'est une affaire de tout le monde et nous devons nous mettre ensemble effectivement pour pouvoir le faire.
Amadou Ali Shina Gourgueni, quels sont les défis du Niger en matière du respect des droits de l'homme, de la promotion de la paix et de la sécurité?
Vous m'avez aussi posé une question sur l'ordre manifestement illégal tout à l'heure. Il faut dire que cette notion d'ordre manifestement illégal, ça date des événements douloureux que nous avons connus au début de la décennie 90, lorsqu'il y a eu les événements du 9 février. C'est depuis lors que dans les prochaines constitutions, le constituant a réfléchi et il a défini la question de l'ordre manifestement illégal. Là où on dit que nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. Ça veut dire que donc c'est la baïonnette intelligente. C'est à celui à qui on a donné l'ordre de savoir que ça, là, s'il fait ça, eh bien, ce n'est plus... parce que très souvent, on va vous dire le grand slogan « L'obéissance fait la force de porteurs de tenue ou de l'armée » et que voilà, tu exécutes et tu poses des questions après. Mais tu vas exécuter, eh bien, tu vas te retrouver devant...
C'est un dilemme.
Ah, voilà. Tu vas te retrouver devant les tribunaux et celui qui t'a donné cet ordre manifestement illégal, il ne sera pas là pour te défendre parce que en droit pénal, c'est vrai qu'il pourra être poursuivi pour complicité, mais c'est le principe de l'individualité du délit et de la peine. Maintenant, je reviens sur les
rapidement.
Défis dont vous avez évoqué. Les défis, ils sont énormes. Ils sont énormes en termes de promotion et de protection des droits de l'homme. Moi, je dirais tout simplement, c'est qu'il faut continuer la sensibilisation, il faut continuer les formations en masse, mais il faut qu'il y ait aussi de l'autre côté une réelle volonté de changement. Je veux parler des autorités. Parce que si on prend aujourd'hui ce sujet qui nous intéresse tout le temps, la question de l'exercice des libertés publiques et de la liberté de manifestation sur la voie publique, c'est une poire qu'il faut couper en deux. Eux, les principaux organisateurs, par exemple, à pareil moment, ils ne peuvent pas parler de manifestation. Ils doivent s'abstenir, mettre les idéologies
de côté. Les contextes ne sont pas favorables.
Oui, ce n'est pas approprié. Il faut faire bloc derrière le gouvernement. Dans tous les pays, c'est comme ça que ça marche. Mais lui aussi, le gouvernement, de l'autre côté, lorsque nous sommes en période normale, il ne faut pas essayer à chaque fois d'étouffer les libertés publiques. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça rend compte de la vitalité de la démocratie. Et le problème qui se pose, c'est que systématiquement, quand vous interdisez les manifestations de manière systématique, ce n'est pas bon. Si la raison est valable, elle est fondée, oui, il faut l'interdire. Mais lorsque la raison ne s'y est pas, non, laissez accepter de souffrir, d'entendre un autre son de cloche. C'est ça le but de la démocratie.
Commissaire Abdelaziz Lawali, quelles sont les voies de recours possibles pour les populations en cas d'abus?
Les recours, comme j'ai compris que le temps est un peu contre nous. Donc, ce qu'il faut surtout retenir pour les forces en fait, de sécurité intérieure, notamment la police nationale, la gendarmerie nationale et la protection civile. Pour ce qui est du volet civil, vous avez l'IGSS, qui est l'inspection générale des services de sécurité. Donc, la personne peut aller et là aussi, ça n'a pas besoin d'un formalisme, c'est-à-dire ça n'a pas besoin d'une plainte écrite. Même oralement, la personne peut s'adresser au niveau du service qui est l'inspection générale des services de sécurité.
Est-ce que les Nigériens le savent?
Les Nigériens le savent, puisque avec l'appui des DICAF, cette institution dont je viens de parler, elle est en train de faire aussi sa promotion, elle est en train de faire sa propre publicité pour se faire connaître des citoyens. Maintenant aussi, si l'abus là, il émane par exemple d'un gendarme ou bien d'un militaire, donc ils ont l'IGAD aussi, qui est l'inspection générale des armées et de la gendarmerie. Là-bas aussi, les citoyens peuvent aller pour déposer plainte. Maintenant, au-delà de ces voies aussi, nous avons d'autres voies de recours qui sont administratives. Donc parmi ces voies de recours administratives, par exemple, vous avez des administrations qui sont indépendantes, telles que, par exemple, le médiateur de la République, qui peut aussi recevoir des plaintes, c'est-à-dire pour un citoyen qui s'estime lésé dans son droit, il peut aller devant le médiateur de la République pour déposer plainte. Parlement aussi, il peut le faire au niveau de l'ALCIA. Si, par exemple, l'infraction dont il s'estime être la victime revêt un caractère, c'est-à-dire de corruption ou bien d'une infraction assimilée à la corruption. Donc, il peut aller devant l'ALCIA. Maintenant, il y a des zones aussi où il n'y a pas ces différents services publics que je viens de citer. Généralement, pour ceux qui sont en rase campagne, où il n'y a ni la police, ni la gendarmerie, ni les inspections, vous avez aussi la haute autorité à la consolidation de la paix. Pour des questions, en fait, qui intéressent la paix, aussi la concorde nationale, si un membre, en fait, des forces de défense et de sécurité venait, disons, à mettre à rude épreuve soit la paix, soit la concorde nationale, la personne peut porter plainte au niveau de la haute autorité à la consolidation de la paix. Maintenant, au-delà aussi de ces voies de recours qui sont administratives, il y a d'autres voies qui sont juridictionnel, comme Aïe allait dire le grand frère Ali Sina. Donc, tu peux aller devant le procureur de la République pour déposer plainte. Et je vous assure, quand j'ai à parler de l'IGSS, l'Inspection Générale des Services de Sécurité, aujourd'hui, c'est une institution, en fait, qui connaît beaucoup de cas d'abus des policiers ou justice est effectivement rendue au citoyen. Puisque dès que la plainte est déposée, il y a un dossier disciplinaire qui est constitué automatiquement. Donc, et ce dossier disciplinaire, c'est sans préjudice en fait, des poursuites judiciaires. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, aujourd'hui, les citoyens ne doivent pas avoir peur pour aller vers ces institutions à partir du moment où ils estiment que leur droit a été violé.
Je pense que Abdelaziz devrait compléter. Il doit expliquer à nos auditeurs, à vos auditeurs, où se trouve l'IGSS pour que les gens soient.
Voilà. Donc, c'est au niveau de Terminus, voilà. Non loin de. Comment on appelle l'hôtel là, mm-hmm. Le rond-point Grand Hôtel, pour celui qui va vers. Hôtel Sahel, il va voir la plaque sur le côté droit où c'est inscrit Inspection générale des services de sécurité. Là-bas, la personne peut aller déposer plainte et je vous assure que la chose suivra son cours normal et il n'y a pas de problème.
Parce voilà, moi, je témoigne, j'ai envoyé la commission à orienter des plaignants à l'IGSS et je vous assure, ils ont eu gain de cause.
Toute citoyenne et tout citoyen investi d'une mission de service public ou de mandat public a le devoir de s'acquitter de ses obligations avec dignité et dévouement. Les gouvernés sont donc en droit d'exiger des pouvoirs publics des services de qualité, mais aussi de leur demander des comptes en cas de défaillance ou de manquement. Le fondement légal de ce rapport résulte des lois et règlements de la République, en particulier la loi fondamentale à ses articles 38 et 39. Nous sommes au terme de ce forum d'Issidio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Amadou Alichina Gourgaini, secrétaire général de la Commission nationale des droits humains, commissaire Abdelaziz Lawali de la direction de la sécurité publique et Kani Abdoulaye, coordonnateur du collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie Kwadan. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme d'Issidio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 41 radios partenaires. Merci, au revoir.